L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, on l'entend surtout au fond d'un golfe. Il y a, dans ce livre que je vous cache, comme une légère vase de l'écriture. Imaginez un petit ermitage en ruine, depuis longtemps abandonné, le pied d'une montagne, les flots d'une mer apaisée, un bosquet quasi impénétrable de figuiers, de vignes sauvages, la verdure qui s'entrelace au mystère des pierres en ruine. Et cette image très belle qu'emploie l'auteur. Il dit qu'au crépuscule, la mer commence à balancer l'image tremblante des étoiles. Nous sommes en plein soupir, dans le soupir de la nature, des eaux, du feuillage. Le sable crisse à peine et d'une façon harmonieuse. Près de là se trouve un château à l'architecture simple, élégante. Ce château porte un nom, le nom du propriétaire, un émigré français. Le nom a été transformé dans la langue du pays, c'est quelque chose comme... Je vous laisse le soin d'imaginer. À sa mort, il laissa deux filles. L'une est la veuve d'un négociant enlevé par la peste à Salonique. C'est une femme d'une sensibilité douce, grave. Elle manifeste peu de transport. Elle vit au passé dans le souvenir de son mari. Elle a beaucoup d'imagination, du courage. Elle est mobile. Elle a reçu une éducation brillante. Elle n'est pas exaltée, mais très romanesque. Comment ne le serait-on pas au fond d'un golfe, devant la chimère des eaux qui se gonflent au large? Quand elle perdit son père, elle regarda sa sœur comme sa fille. C'est l'aînée, elle a 32 ans, la cadette arrive juste à 17. Cette dernière est d'une grande taille, élancée, svelte. Mais il y a quelque part dans ses gestes un abandon qui annonce une secrète faiblesse, une fêlure. La tête est vive, les couleurs semblent arrachées au paysage. Elle se déplace un peu penchée, elle est blonde, claire, transparente. Elle a un teint d'aquarelle. Son regard myope promène sur les objets lointains une sorte de gaz. Elle est timide, inquiète, effarouchée, prête à sursauter. Elle vit imparfaitement et dans un espèce d'effort. Son cœur n'a pas eu le temps de dissocier les sentiments. Elle ressent le même élan pour la perte de son père et de sa mère, et pour la beauté du paysage. Elle pleure, frémit, tremble. Elle tremble si fréquemment que les médecins crurent longtemps que c'était une maladie, que ce tremblement. C'est une feuille à peine tombée, à peine posée sur la terre, une sensitive, une nerveuse, ne connaissant pas l'issue de son frémissement, issue que je connais. Ces deux sœurs se promènent habituellement sur les bords du golfe. Elles marchent pensives jusqu'aux premières maisons d'une ville importante. C'est un port rempli de l'énergie, des voiles et des mâts, du voyage, des traversées. Elles habitent donc non loin. Elles marchent, foulent le sable, s'arrêtent à la première maison de cette ville. La jeune fille, la cadette, à cause de sa vue faible, incertaine, empêchée, n'aperçoit pas tous les contours de la côte, mais sa sœur aînée les lui décrit. Elle lui dit le fond de l'horizon, les caps, les promontoires. C'est très important pour la suite de l'histoire que ce regard partiel porté par la cadette sur les choses du roman, ce vague de l'arrière-plan, cette mousseline jetée par la jeune fille sur l'univers. La sœur aînée l'entretient de mythologie des argonautes qui seraient venus dans cette région. L'horizon est cette ligne d'un bleu foncé. Elle lui décrit une tour voisine, la chaîne de montagnes qui s'élève au-dessus de la ville. Cette masse qui s'appuie sur d'autres masses, rocailleuses, terribles. Et là, dans une partie qui domine la mer, un cap ténébreux, et à son faîte un château ténébreux, qui passe pour avoir été construit par les barbares. Le peuple l'appelle encore le château d'Attila. Tel est le plus souvent le sujet de leur causerie. Mais la cadette, au prénom murmurant, laisse vite retomber sa curiosité. Elle songe à ses pauvres parents. C'est l'objet favori de ses rêveries. C'est la Bretagne, sa patrie, mais elle dit « Ce n'est pas là qu'ils sont morts, et ma patrie, c'est là où ils sont morts. » Ainsi se passaient leurs jours. Vous imaginez le golfe, la montagne, le château féroce au loin, sur un cap. Des armées de différentes nations avaient autrefois envahi le pays, laissant derrière elles une population orageuse, surexcitée par le souvenir des armes. Depuis, des brigands dévastaient la région. Les gens murmuraient des brigands, mais eux se prétendent révolutionnaires. On les appelle les frères du bien commun. Ils dévastent les villages au nom de la liberté. Un homme sanguinaire les commande. Son nom est sur toutes les bouches, y compris la mienne, mais... Chut, Motus. C'est trop dangereux à dire, à prononcer. C'est d'ailleurs le titre du roman que son nom. L'ombre est partout et les brigands sont dans l'ombre. L'ombre est leur cap. Elle cache leurs yeux acérés. Depuis que les brigands dévastent la région, font régner la terreur, tous les habitants se réfugièrent à l'abri de la ville fameuse, dont je vous tais le nom, y compris les deux sœurs. Elles préférèrent quitter ce château à l'architecture simple et élégante, pour une maison plus sûre à l'intérieur de la ville. La ville est heureusement pressée entre des hauteurs inaccessibles et la mer immense. Ces bâtiments en amphithéâtre s'élèvent de degré en degré parmi les vergers, la grâce des fruits, des bois de châtaigniers, des figuiers, des grenadiers, des myrtes, du jasmin. L'air au-dessus du port est embaumé, sont réunis là la force du départ et les amarres des odeurs, des parfums. On part, on est retenu. Il faut que le large balaye l'aventure. Il faut que le large balaye l'aventure pour qu'on puisse s'arracher. Au-dessous de la cime neigeuse des montagnes, entre la ville et le sommet, se trouve une petite forêt de chênes verts. On l'appelle, dans la langue du pays, le bosquet. Il est assez haut, mais pas trop éloigné de la ville. Entre ces arbres, on n'aperçoit plus la mer, cette dévoreuse d'infini. Les deux sœurs s'y promènent souvent. Un jour que dans cet endroit elles erraient, elles surprirent une fête de village. Des paysans, dans leurs costumes légers, garnis de nœuds et de rubans, agitant leurs chapeaux à bouquets, voltigeaient, dansaient. Alors elles s'arrêtèrent, écoutant un vieillard qui grattait une sorte de romance sur une guitare, instrument pour elle inconnu, une sorte de guitare garnie d'une seule corde de crin avec un archet grossier. Le son en était rauque, monotone, mais très bien assorti à sa voix grave. Il chantait l'infortune de ses compatriotes que la misère exile. Il chantait l'abandon de la terre natale, les beautés des douces campagnes. À son chant, tous l'écoutaient, certains pleuraient, car dans l'organisation sensible des gens de ce pays, toutes les sympathies deviennent des passions. Le vieillard était aveugle, comme Homer. La cadette voulut lui donner une pièce de monnaie. Il la saisit par le bras et sourit, s'apercevant au toucher que c'était une jeune femme. Alors, changeant de sujet, il se mit à célébrer les douceurs de l'amour, les charmes de la jeunesse. Soudain, il chanta avec plus de véhémence, frappa la terre de ses pieds, fleurit dans les bosquets parfumés parmi les grappes. Le jasmin, toi l'ornement de l'air, ne sois pas comme la graine empoisonnée que le vent jette, car c'est ainsi que tu sécherais si tu palpitais dans les forêts, soumise à la domination de... Et ici le nom du farouche brigand, qui passe comme une faux. Les deux sœurs, un peu effrayées, retournèrent alors vers la ville. La cadette appuyée, pensive sur l'aîné. Le nom du brigand avait alarmé son cœur. Elle n'osait avouer son trouble. Autour d'elle, la nuit s'approchait à pas de loup. C'était le silence, la solitude, le murmure des profondeurs. Le profond sur le profond. Elles pressèrent le pas, parlant du brigand. La plus jeune se demandant si on ne calomniait pas un peu trop ces gens redoutables. L'aîné mettait cela sur la bienveillance naturelle de sa sœur. « Le mal existe, disait-elle. Les panthères boivent le sang des animaux sans jamais se désaltérer. » La nuit était tout à fait tombée. Les deux sœurs s'arrêtèrent pour reprendre souffle. Soudain, une voix s'éleva, douce, mélodieuse, une voix presque sans gorge, comme si la nuit elle-même chantait. « C'est un jeune homme, dit l'aîné. » À la cadette. D'ailleurs, on apercevait ce jeune homme, confusément. On distinguait son manteau court, son chapeau retroussé, à panache flottant. Il passait au-dessus de leur sentier. Plutôt, il semblait voler de rocher en rocher. Il répétait le refrain du vieil aveugle. « Si tu croissais, jeune plante, dans les forêts soumises à la domination. » Et là, le nom rapide encore du brigand, comme une faux. Écoutez plutôt. Le chant mélodieux finit par un cri terrible, sauvage, que j'ai envie de pousser. C'est une plainte qui s'écrase en rebondissant sur les rochers. Écoutez, peut-être entendrez-vous chanter, clamer le nom du roman.